Chapitre 6. En quittant Delaina, les Semenkov avaient regagné Tchevorik, le domaine que le comte possédait sur les bords de la Volga. Bientôt, il serait vendu sur la demande des créanciers. Le comte Semenkov se demandait où il irait chercher un dernier refuge et comment il vivrait, lui et son fils infirme. Telle était la situation que lui avait faite Ismène Nadopoulou, épousée sans fortune, émirat dont il avait assumé l'entretien depuis le jour où il était devenu son beau-père. Dépourvues de toute délicatesse, ces deux femmes avaient dépensé largement, si largement que la belle fortune du comte avait fondu comme neige au soleil. Les efforts pour enrayer n'avaient eu comme résultat que de lui attirer des scènes pénibles. Trop faible, trop dominé par Ismène pour imposer sa volonté, il se laissait maintenant emporter par une sorte de fatalisme, par le courant qui le menait à la ruine totale. La comtesse, femme avisée, pensait déjà aux moyens d'échapper à la noyade. Dès qu'elle ne verrait plus rien à tirer de ce côté, sa fille et elle laisseraient là leur victime et iraient demander au jeu les ressources nécessaires à la vie élégante et facile dont elle ne pouvait se passer. Avant son mariage, Ismène était une habituée du casino de Monte-Carlo et autres lieux. Elle reprendrait son existence d'aventurière avec sa fille jusqu'à ce que celle-ci trouvât le riche mari désiré. Bien qu'elle détestât Tchevorik, Ismène avait accepté d'y faire un séjour de quelques semaines avant de regagner Pétersbourg, car leurs moyens ne leur permettaient pas, cette année, une villégiature hivernale. Mira, très nerveuse, très souffrante en quittant Velaina, était prise d'un désir soudain de repos et de solitude qu'elle pouvait y contenter à loisir. Ainsi, la vieille demeure abandonnée retrouvait un peu de vie. Le comte errait à travers les pièces décorées avec une élégante simplicité, y cherchant le souvenir de la jeune femme douce, pieuse et tant aimée, de l'enfant morte si jeune, de tous les jours heureux qu'il avait connus ici. Les glaces réfléchissaient sa silhouette courbée, son visage fatigué, ses cheveux presque blancs. Depuis des années, il souffrait silencieusement, comprenant quelle erreur avait été la sienne le jour où il avait fait de la belle veuve une comtesse Semenkov. Et la conscience de sa faiblesse augmentait encore son tourment secret. Souvent, au cours de ses promenades dans le parc, il poussait devant lui une petite voiture où s'asseyait un adolescent d'une quinzaine d'années, Serge, son fils. Il l'entourait de soins touchants, à défaut de la mère indifférente. Mais c'était là encore, pour lui, une croix de plus. Mira, comme une âme en peine, s'en allait à travers le domaine. Sa passion surexcitée ne lui laissait pas un instant de répit. À tout moment, sa pensée retournait vers le prince de Wittengratz. Elle se demandait « Où est-il en ce moment ? Peut-être près d'elle ?» Une fièvre de désespoir et de haine la brûlait. Ce repos, cette solitude dont elle avait escompté le bon effet, ne semblait aucunement lui réussir, comme le constatait sa mère une quinzaine de jours après leur arrivée à Tchevorik. Mira leva les épaules à cette remarque et murmura farouchement « Qu'est-ce qui peut me réussir ? Rien, rien !» Pendant un moment, elle resta silencieuse, la physionomie sombre. Étendue dans un fauteuil, elle appuyait sur ses genoux ses mains très blanches, un peu fortes, comme celles de sa mère. Puis elle se redressa en disant d'un ton résolu « Je vais partir pour Sanitsa, je m'informerai là-bas » Ismène faillit lâcher la broderie compliquée à laquelle travaillaient ses doigts habiles. « Es-tu folle, faire ce voyage long et coûteux pour un résultat peut-être nul ? Je ne te le permettrai pas, ma petite !» Mira frappa du pied. « Si, tu permettras, parce qu'il faut que j'agisse, que je me remue. Je perdrai la raison à rester là inactive, à ne pas savoir qui est cette femme. » « Mais Sanitsa est un pays perdu. Peut-être n'auras-tu même pas de moyens de communication. » « Je sais que la ville la plus proche est Volinsk. Je m'arrêterai là et je m'informerai. Je me ferai passer pour une étrangère, curieuse de connaître la forêt que l'on dit magnifique. Tu me donneras Maroulia, qui me sera très utile pour une enquête, car elle attirera moins l'attention que moi. C'est absolument insensé. Je ne puis autoriser cela. » mais en dépit de la résistance maternelle, Mira partait la semaine suivante avec la femme de chambre grecque. Au compte, on dit simplement qu'elle allait passer quelques jours chez une amie. Après 48 heures de chemin de fer, elle atteignit Volinsk, où elle éprouva quelques peines pour gagner Stanitsa. La première neige avait commencé de tomber et une boue effroyable couvrait les routes. Les véhicules à louer étaient rares et leurs propriétaires ne se souciaient pas de faire faire ce difficile trajet à leurs chevaux. Enfin, l'habile Maroulia découvrit un commerçant qui se rendait, pour affaires pressantes, au village de Vrodno et obtint qu'il les prît toutes deux dans sa voiture. De cet homme, serviable et bavard, Mira essaya, pendant le trajet, de tirer quelques renseignements. Elle apprit que le prince de Wittengrath était revenu à Stanitsa dans les premiers jours de novembre. À ce moment-là, son Altesse a expulsé toute la famille de l'intendant et livré celui-ci à la police comme s'étant rendu coupable de malversation. On dit tout bas que c'est aussi parce que ce Strenov et sa fille ont eu la langue trop longue. Et il paraît que le maître n'est pas tendre dans ces cas-là. Qu'ont-ils donc bien pu raconter pour le mécontenter à ce point ? Le commerçant eut un clignement d'yeux, ouvrit la bouche pour parler, puis la referma et dit enfin « Je ne peux pas le répéter, car cela pourrait m'attirer aussi des désagréments, qui sait ? Le prince est très puissant et l'on dit que, sur son désir, l'intendant sera envoyé en Sibérie. Aussi, vous pensez que toutes les bouches sont closes, maintenant, à Stanitsa et aux alentours. » Mais Mira s'y prit avec tant d'habileté qu'avant d'arriver à la forêt, son compagnon lui avait appris ce qu'elle souhaitait savoir, la présence, dans une petite maison forestière, d'une jeune fille merveilleusement belle, dont l'origine semblait quelque peu mystérieuse, les visites quotidiennes que le prince lui faisait pendant son premier séjour à Stanitsa, la correspondance qui s'était échangée ensuite, soi-disant entre le vieux garde et le secrétaire de son Altesse, mais qui en cachait probablement une autre, puis le second et très bref séjour du prince, après lequel on n'avait plus vu la belle Lilia Vérine. « Son Altesse l'a emmenée sans doute à ce moment-là, » conclut le commerçant. Mira, maintenant, se trouvait aussi bien renseignée que possible. Il ne lui restait qu'à savoir où se trouvait en ce moment sa rivale. Mais cela, tout le monde l'ignorait à Stanitsa, très probablement. Le nouvel intendant étant absent, Mira ne put visiter le petit château et dut se contenter d'une courte promenade dans la forêt. Au passage, le commerçant qui s'était fait son guide lui montra la maison d'Ofnik. C'est là qu'habitait Lilia Vérine. Tous ceux qui l'ont vue s'accordent à dire qu'elle était plutôt faite pour vivre dans un palais. Mira jeta vers la modeste demeure un regard noir. C'était ici qu'il venait, ici qu'il aimait, ce prince de Wittengrath si orgueilleux. Comme il fallait qu'elle lui plût, cette Lilia Vérine, pour qu'il fût revenu la chercher. Mademoiselle Nadopoulou rentra à Tchévorik, non calmée, bien au contraire, mais du moins enlevée à cette sorte de prostration qui inquiétait sa mère. Elle insista pour hâter le retour à Pétersbourg, et le comte, à son habitude, céda sans grande résistance, bien qu'il se plût mieux qu'ailleurs dans ce domaine pour lui plein de souvenirs. Une fois réinstallée dans la capitale, Mira s'occupa de savoir où se trouvait en ce moment le prince de Wittengrath. Non sans difficulté, elle finit par apprendre qu'il était, depuis le début de novembre, à Nice, ainsi qu'en témoignait sa correspondance adressée au Grand Hôtel. Il avait dû s'y rendre dès son brusque départ de Vélaïna, inexpliqué pour tous, y compris pour sa grand-mère, qui, depuis lors, ne l'avait plus revu et n'avait reçu de lui que deux courbillers, ne donnant aucun détail sur son séjour là-bas. Munie de ce renseignement, Mira alla trouver une amie de sa mère, Madame Menkin, qui s'apprêtait à partir pour Monte-Carlo, où, chaque année, elle allait satisfaire sa passion du jeu. Comme suite de l'entretien qu'elles eurent ensemble, Mademoiselle Nadopoulou recevait, 15 jours plus tard, cette information. En fait de prince de Wittengrath, il n'y a au Grand Hôtel que son secrétaire, un nommé Ivan Seminich Straskov, qui reçoit la correspondance chaque matin, part en voiture pour ne revenir que le soir. Le prince, on ne sait où il est. Cependant, son yacht est ancré dans le port de Monaco. Parfois, au matin, il a disparu. On le revoit quelques jours plus tard, revenu aussi mystérieusement qu'il est parti. Voilà tout ce que je sais pour le moment, ajoutait Madame Mencken. Mais je continuerai mon enquête, ma chère petite, tu peux y compter. Plus d'une semaine s'écoula avant que Mira reçût ce nouveau billet. Enfin, je crois être sur la voie. Dans une villa très retirée, au-dessus de Nice, habitent depuis le début de novembre des Russes qui se font appeler comte et comtesse Vorchev. Ils vivent là solitaires, font de longues promenades, à pied et en voiture. Quelques personnes qui connaissent le prince de Wittengrass, ayant aperçu ce soi-disant comte, n'ont pas eu un moment d'hésitation. Tous deux ne font qu'une seule et même personne. Quant à la jeune femme qui l'accompagne, elle est, paraît-il, tout ce qu'on peut imaginer de plus délicieux, une beauté qui ne craindrait aucune rivale, m'a dit celui dont je tiens ces détails. Dans quel dessein le prince garde-t-il incognito pour satisfaire ce nouveau caprice? Qui est cette jeune personne, ainsi entourée de mystères? Peut-être, avec de la patience, parviendrai-je à le savoir. Tout d'abord, je vais tâcher d'apercevoir la pseudo-comtesse Vorchev. Pour cela, demain, je louerai une voiture, je me ferai conduire à la Villa Sylvia, une des plus belles propriétés de Paris-ci, entourée de bois de pin, avec de magnifiques plantations d'orangers. Je me souviens de l'avoir aperçue il y a 2 ans, au cours d'une promenade. C'est un lieu fait à souhait pour se dérober aux regards curieux. Mais peut-être, malgré tout, les miens pourront-ils y pénétrer. Nouvelle lettre 2 jours plus tard. J'ai vu ma chère Mira. Oui, elle est belle, adorablement belle, et lui paraît fort amoureux, si j'en juge par le regard que j'ai surpris. Figure-toi que je craignais d'en être pour les frais de mon expédition, car la propriété a plusieurs sorties. Négligeant la belle grille forgée de l'entrée principale, j'allais me cacher aux environs d'une petite porte, près de laquelle des traces de pas annonçaient un passage fréquent. Elle donne directement sur les bois de pin. Bien m'en prit, car j'étais là depuis 1 quart d'heure, quand elle s'ouvrit pour livrer passage à une jeune femme, vêtue avec une sombre élégance. Ah, chère Mira, quel charmant visage, tout jeune! Et ses cheveux d'un blond fauve, à eux seuls, parurent incomparables. Oui, mon observateur disait vrai, cette jeune personne n'a pas à craindre que personne ne l'éclipse. Elle se tourna vers le prince qui la suivait et refermait la porte. Il se pencha pour lui adresser quelques mots. Elle sourit en le regardant. Quels beaux yeux ! Et lui la considérait avec l'amour le plus ardent, le plus absolu. « Ma petite, j'ai l'expérience des hommes et je puis dire que celui-là est pris, enchaîné. » Je l'ai regardé s'éloigner dans une allée de pins. Cet inconnu est doué d'une grâce très naturelle et d'une singulière distinction. Impossible de nier qu'elle forme avec le prince de Wittengrass un couple tel que les anciens Grecs l'eussent divinisé. Tu m'as demandé de te dire la vérité, Mira. Je le fais, tout en songeant que mieux vaudrait peut-être ne pas exciter la jalousie dont tu es possédée, je le sens. Allons, sois raisonnable, ma chère enfant, tâche d'oublier. Dis-toi que tu n'auras été qu'une brève distraction, une fantaisie de plus dans la vie de cet homme qui, dit-on, méprise si profondément les femmes. Et console-toi en pensant qu'avec une nature de cette trempe, la belle mystérieuse de la Villa Sylvia, comme d'autres avant elle, connaîtra tôt ou tard les tortures de l'abandon. Mira froissa violemment la lettre qu'elle jeta au loin et se redressa, pâle, les yeux brillants. « Je vais partir pour Nice, maman. Je veux la voir, cette femme. Je veux la connaître. » Ismène posa une main ferme sur le bras de sa fille. « Non, Mira, non. Dans l'état de surexcitation où tu es en ce moment, tu serais capable de faire quelque folie, quelque sottise. » Mira eut un rire dur. « Tu crains peut-être que je commette un crime ?»« Non, je serai sage, rassure-toi. Il me suffira de l'apercevoir, pour le moment du moins, car je ne réponds pas que je ne cherche ensuite le moyen de me venger, de l'enlever à celui qui m'a méprisé. » La comtesse insista encore pour finir par céder. Le surlendemain, Mira, ayant prévenu par dépêche l'ami de sa mère, quittait Pétersbourg à destination de Nice. Madame Mencken l'accueillit à sa descente du train. Elle n'avait rien appris de nouveau sur les habitants de la Villa Silvia. « Demain, nous irons jusque-là, puisque tu tiens tant à voir cette jeune personne. Mais peut-être n'aurons-nous pas tant de chance que moi l'autre jour. Eh bien, nous y retournerons encore jusqu'à ce que je l'aperçoive. » Madame Mencken sourit. Et il peut dire qu'il met un fameux grain de folie dans les cervelles féminines, ce prince de Wittengrass, égare à la délicieuse inconnue, objet de son amour, si jamais elle tombe sous ta patte, ma jolie tigresse. Un éclair passa dans les yeux sombres de Mira, et les lèvres rouges s'entr'ouvrirent un instant, laissant voir de fines dents aiguës. Mademoiselle Nadopoulos dit sourdement « Oui, gare à elle !» Vers 2 heures, le lendemain, Madame Mencken et sa compagne descendaient de voiture à quelque distance de la Villa Silvia et prenaient la route y conduisant. Mira, en prévision d'une rencontre avec le prince, avait entouré son visage d'un voile et s'était enveloppée d'un long manteau foncé. Bientôt, la grille apparut aux yeux des deux femmes. La villa, belle habitation dans le style des palais italiens du XVIe siècle, s'élevait au milieu d'un parterre abondamment fleuri. Toutes les fenêtres étaient ouvertes et, à l'une d'elles, un domestique secouait des tapis, des coussins, tandis qu'un autre rentrait dans les pièces du rez-de-chaussée, des meubles dispersés le long de la grande terrasse de marbre. Cela frappa Madame Mencken. Pour qu'on s'occupât à cette heure de ses soins de ménage, il fallait que les maîtres fussent absents. Elle fit part de son observation à Mira, qui manifesta aussitôt son irritation. « Ce serait intéressant. Ne peut-on s'informer ? À qui et sous quel prétexte ?» Sans répondre, Mademoiselle Nadopoulos avisa un jardinier qui passait dans le parterre et lui cria « Eh, s'il vous plaît !» L'homme, un grand garçon brun et sec, de mine peu avenante, s'avança de quelques pas. « Cette villa est-elle encore habitée ?» Le jardinier toisa la jeune personne avant de répondre « Non, les maîtres sont partis. Ah, en ce cas, elle est de nouveau à louer ? Non pas, monsieur le comte l'a achetée. Vraiment ? Quel dommage ! Elle me plaisait tant. Et ils sont partis pour longtemps, vos maîtres ? L'homme répondit sèchement : Je n'en sais rien. Après quoi, soulevant son chapeau, il retourna à sa besogne. Mira dut redescendre bredouille à Nice. Elle y demeura encore 8 jours. Et pendant ce temps, monta 2 fois à la Villa Silvia. Mes fenêtres et volets étaient clos maintenant. Quant au yacht princier, on ne l'avait plus revu dans le bassin de Monaco depuis le jour où Mademoiselle Nadopoulos était arrivée à Nice. Très probablement, le prince et la jeune inconnue s'y étaient embarqués la nuit, ce même jour, pour un départ qui semblait cette fois définitif. Maintenant, Mira n'avait plus de fil conducteur pour les retrouver. Elle quitta Nice dans un état de fureur contenue, emportant la vision de cette solitude parfumée où, pendant 2 mois, le prince de Wittengrass et celle qu'il aimait avaient caché leur bonheur parmi les orangers et les roses sous le vibrant soleil de Provence.